Merci beaucoup Fabrizio. Franchement, je pense que ça démarre bien. Et on a l'impression que Fabrizio s'était donné le défi de mettre dans la même conférence Coluche et Jean-Baptiste de Salins. Et vraiment, c'est formidable. Merci beaucoup Fabrizio. Notre deuxième intervenante dans les conférences introductives est quelqu'un de très connu aussi chez nous en Bourgogne, Isabelle Anatole Gabriel. Isabelle est docteure en histoire du patrimoine, également diplômée de l'École des hautes études de sciences sociales et chef de l'unité Europe à l'UNESCO. Isabelle est une amie, j'ose pas dire une vieille amie, mais une amie très fidèle des climats du vignoble de Bourgogne. Et elle nous fait l'amitié de venir aujourd'hui dans des circonstances un peu compliquées pour elle, donc on la remercie du fond du cœur. Et je voudrais rappeler qu'elle a fait avant, elle c'est une grande spécialiste du patrimoine, et elle a fait pour nous, elle a organisé pour nous, pendant la candidature, un colloque absolument extraordinaire qui s'appelait Valeurs patrimoniales des économies de terroir et qui a eu lieu au Bernardin en février ou mars 2015 et qui a été également un grand succès. Et la publication des actes a été une très belle affaire qui a été très bien reçue et que nous avons été heureux, à laquelle nous avons été heureux de collaborer. Voilà, Isabelle va nous parler de l'histoire de la patrimonialisation viticole. Merci Isabelle.
Bonjour à tous et à toutes. Merci Monsieur le Président, cher Guillaume, Monsieur le Président d'honneur, cher Robert, Madame la Présidente de la chaire UNESCO, chère Jocelyne, ma chère consoeur Laure Ménétrier, Monsieur le Directeur, Monsieur le Représentant de la ville de Dijon, chers amis, chers collègues, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à Beaune, ville qui rassemble beaucoup de souvenirs pour moi. Et sans doute pour cette raison aussi, suis-je très sensible à l'honneur qui m'est fait de partager en ouverture de votre colloque quelques réflexions sur vos missions dans le contexte particulier d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial. À cet égard, le titre retenu pour cet échange, « Montrer et représenter la vigne et le vin », est un titre fort juste. Juste parce qu'il s'abstient de nommer ce par quoi on aborde d'ordinaire un site du patrimoine mondial, c'est-à-dire le cadre paysager, cette notion qui a prévalu à l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne. Vous avez donc choisi de détacher du paysage ce qui lui donne sa qualité, sa signification et son histoire, la culture de la vigne pour la production de vin. Si je souligne votre démarche, ce n'est pas tant pour énoncer une évidence que pour souligner une étrangeté, celle de l'absence relative du vin, c'est-à-dire du facteur de création du paysage reconnu, dans la déclaration de valeur universelle des paysages viticoles patrimoine mondial. Les deux plus anciens paysages inscrits, Cinque Terre et Saint-Émilion, ne le mentionnent pas. Seule l'activité économique de la viticulture est soulignée à Saint-Émilion. Le Piémont ne le mentionne pas et les climats parlent de produits. Cette remarque ne vaut pas reproche, bien sûr, car l'approche patrimoniale qui prévaut en effet au plan international, en s'organisant en grande typologie d'objets, est séparatrice des histoires. Histoire du patrimoine matériel, histoire du patrimoine immatériel. Ainsi, l'histoire des paysages viticoles patrimoine mondial consiste le plus souvent à décliner un inventaire de dates. 1972, adoption de la Convention du patrimoine mondial. 1992, adoption de la notion de paysage culturel. 1997, inscription du premier vignoble. 1999, inscription du premier vignoble français. Cette histoire est sèche comme un repas sans vin. En effet, ce type d'approche par les dates naturalise au sein d'un cadre normatif des inventions le plus souvent faites ailleurs, dans la fabrique des patrimoines nationaux. Cette manière de dézoomer sur un cadre large, international, fait donc souvent oublier les détails, les petites choses qui, elles, ramenant à une singularité, à un cas particulier, permettent de s'affranchir des grands paradigmes de l'universel et par là nous ramènent à notre histoire et à celle d'un territoire, la Bourgogne. C'est donc une histoire des détails et non des dates que je vous propose de partager à partir de deux images de la Bourgogne viticole. Si on peut mettre la première slide. Ah, pardon. Excusez-moi. Merci. La première image est un tableau bien connu de Charles-François d'Aubigny, vendange en Bourgogne, daté du milieu du XIXe siècle. C'est une très grande œuvre de 2,94 m de long sur 1,72 m de haut, quasiment un paysage par ses dimensions. J'aimerais confronter cette image à celle que donne à voir le site du patrimoine mondial des climats du vignoble de Bourgogne. J'en ai choisi deux, celle-ci, trois plutôt, il y en a une autre, voilà, celle-ci. Revenons à la première image. Le paysage représenté est celui de coteaux à très faible pente, tout occupé de femmes et d'hommes au labeur, ouvriers des vignes qui viennent en famille toute une journée s'atteler à la tâche des vendanges. Quel autre lien de sens plus court entre la vigne et le vin que celui des vendanges ? À la date de 1863, et si l'on suit la chronologie de Georges Duby, la civilisation rurale est à son apogée. Ces 30 années, de 1852 à 1880, délimitent une période exceptionnelle pendant laquelle, je cite, « les folklores régionaux et les paysages agraires atteignent leur plein épanouissement ». La progression de la culture de la vigne est un indice de cet épanouissement. Ainsi, les surfaces plantées de la Bourgogne et du Lyonnais augmentent de 94% et 1870 est, je cite Duby, l'apogée du vignoble français. L'œuvre de d'Aubigny, quant à elle, est décrite dans la notice du musée d'Orsay qui la conserve comme, et la répétition du mot n'est pas une redite, l'apogée du mouvement naturaliste en peinture, l'apogée d'un courant pictural français au plus près de la nature. En France, au XIXe siècle, le mouvement du naturalisme paysager, avec son corollaire, le réalisme, serve, selon l'historien François Walter, à dire et à montrer cette réalité, je cite, « sans cesse remise sur le métier et continuellement fabricolée de la nation ». Walter s'appuie sur une autre référence, entre autres références, sur la contribution de Françoise Cachin au lieu de mémoire, cet inventaire fondateur du registre patrimonial de la France. Françoise Cachin, donc, dans son essai de caractériser le paysage français comme lieu de mémoire, soulignait qu'à l'opposé de nos voisins suisses et allemands, le paysage national français n'est pas grandiose. Il n'est pas le support d'émotions sublimes. Le paysage archétypal français est villageois, cultivé, planté. C'est un mélange harmonieux et indissociable de la culture et de la nature. À cette prospérité habitée d'humains au labeur, où l'apparente nature n'est que culture, succède, dans notre registre patrimonial de l'exceptionnel, les images des climats du vignoble de Bourgogne, site du patrimoine mondial. Extraites du musée virtuel du patrimoine mondial, qui est le site web de l'UNESCO, ces images, lisses et vibrantes de lumière, au plus près de la réalité des choses, n'ont plus besoin du support explicatif de l'historiographie des arts, divisant le rendu du réel en courant réaliste, courant naturaliste, abstrait ou figuratif, pour susciter l'émotion. Par leur procédé même de fabrication, la photographie, ces images imposent la qualité, c'est-à-dire la vérité du paysage comme unique vecteur de signification et d'émotion. La première remarque qui résulte de cette comparaison d'images est que les paysages viticoles du patrimoine mondial sont quasiment toujours vides des humains et du labeur de la vigne. La patrimonialisation internationale des paysages viticoles, c'est d'abord l'exclusion des humains de la représentation et par là, l'effacement de la temporalité. À rebours de la construction patrimoniale nationale, l'exceptionnalité du patrimoine mondial s'affranchit du temps. Pourtant, la poétique des ruines de la fin du XVIIIe siècle, inspiratrice de nos antiquités nationales, parlait du temps, de sa fuite et de ses ravages, et inscrivait la construction du patrimoine national dans un élan pour stopper le passage du temps sur nos monuments et nos œuvres d'art. Pourtant, l'histoire du vin et de sa fabrication en France demeure profondément liée à la naissance de notre histoire gauloise, celtique plutôt, puissamment innervée des éblouissements grecs, et pour cette raison, le vin est devenu un marqueur civilisationnel de l'Europe occidentale, de la basse antiquité à l'époque médiévale. Mais au plan international, si la naturalisation esthétique du vignoble opère toujours pour caractériser une culture, la défolklorisation des espaces ruraux s'est imposée pour répondre aux exigences d'universalité. Comparaison n'est pas raison, bien sûr. Mais poursuivre la mise en regard de ces deux images des vignobles de Bourgogne nous aide à nous interroger sur ce qu'il advient après l'inscription au patrimoine mondial pour un paysage qui a si longtemps porté l'investissement symbolique d'un programme patriotique d'une France, je cite, « des coteaux modérés ». Françoise Cachin, à nouveau, rappelle que le paysage, en tant que sujet de la peinture française, est exclu de l'art vivant dès les années 1920, c'est-à-dire au moment où le regard de la société française sur son environnement change et où le paysage rural du siècle passé, en s'installant durablement dans la mémoire collective, se patrimonialise. Or, il s'avère que ce moment de basculement, qui s'étire à la décennie suivante des années 1930, correspond exactement à celui de la cristallisation d'une ambition internationale de protection du patrimoine. Cette ambition est concrétisée par une toute première formulation de cadre normatif, la Charte d'Athènes, d'un côté, d'un instrument juridique international de protection du patrimoine en temps de guerre, de l'autre. La chronologie nous rattrape ici pour faire court, et ces balbutiements du patrimoine international des années 1930 nous conduisent, 40 années après, à l'invention de la notion de paysage culturel dans la Convention du patrimoine mondial. Confrontée à l'analyse du paysage français où l'apparente nature n'est que culture, la définition du paysage culturel dans le cadre de la Convention, c'est-à-dire œuvre conjuguée de l'homme et de la nature, n'ajoute rien à l'histoire du paysage français devenu patrimoine. Elle simplifie plutôt pour généraliser et rendre appropriable et se rendre appropriable à l'échelle du monde. Outre l'effacement de la temporalité, cette simplification a d'autres effets. L'absence de sublime dans le paysage français signalait la recherche d'une typicité qui devait faire sens pour toute une nation. L'affirmation de l'exceptionnalité des paysages viticoles patrimoine mondial est aussi, par le biais de leur entrée dans un registre international, le moment de l'affranchissement avec la nation. À la communauté nationale se substitue la communauté internationale et même plus, l'humanité. La rupture avec la possibilité de parler pour la nation s'installe avec l'exercice d'analyse comparative des dossiers d'inscription, dont l'objectif est de faire émerger l'unicité du bien à inscrire. Cette dynamique est à l'opposé de celle qui construit une identité nationale par la collecte, ou plutôt l'accumulation, des symboles porteurs d'une même signification. Face à ce bilan, des comparaisons d'images, on pourrait alors formuler l'hypothèse que le désir de convaincre, la nécessité de démontrer l'existence de la valeur universelle exceptionnelle d'un paysage viticole impose à l'image de suivre et d'illustrer mot à mot le récit qui en est fait. Et que, sans la connaissance de ce récit, de cette construction narrative, à la fois savante et esthétique, les images des paysages tendus au monde par le patrimoine mondial resteraient de simples machines à rêver la terre. C'est là que réside la mission des institutions que vous représentez et sans lesquelles le patrimoine mondial resterait une fabrique de normes et d'images. Votre œuvre est donc de faire réapparaître dans les dispositifs de médiation ce qui a été retranché du tableau. La temporalité, les femmes et les hommes au labeur, ainsi que toutes les disciplines qui, de Roger Dion et Vidal de la Blache à Marc Bloch, ont permis de comprendre, tout en faisant apparaître, l'objet scientifique du paysage viticole de la France. Il vous incombe donc d'être les peintres et les savants de ce patrimoine mondial. À vous incombe le défi d'instruire et le fardeau de faire rêver. Disant cela, je saisis combien cette injonction peut sembler incongrue, voire provocatrice. Elle est toutefois sincère. Il n'y a pas de patrimoine mondial sans vous, pas d'incarnation de ce que la Convention signifie sans les dispositifs mis en place et dont la diversité d'appellations, loin de dissimuler des redondances, manifeste la complexité des enjeux que vous affrontez. Seule, en effet, la diversité des dispositifs peut rendre à des espaces de patrimoine fortement normalisés la dynamique d'une transmission aux générations futures. Quels sont alors les enjeux actuels de l'interprétation de la culture, de la vigne et du vin ? C'est d'abord celui d'une activité d'un territoire que l'on somme, avec le tourisme, de trouver des solutions économiques complémentaires. Le tourisme œnologique est forcément un atout. Il ne peut se substituer à la durabilité des activités de production, y compris dans une perspective de protection du site patrimonial. Pour cette raison, il faut se garder de ce que cette invention du patrimoine mondial ne soit destinée à des usages sociaux qui en accentuent d'une part la commodification du produit, comme on l'a vu dans certains dossiers récents comme celui du Prosecco, et d'autre part l'écart entre les représentations des paysages viticoles et ses réalités économiques et sociales. C'est ensuite l'enjeu d'une territorialité conceptualisée autour de la durabilité et de l'écologie, qui n'est que la redécouverte, après une longue éclipse, des qualités d'un espace rural, porteur de promesses de bien-être et de bien-vivre. Cette promesse est une attente pour toute une société traversée d'inquiétudes face aux urgences climatiques, écologiques et sociétales. C'est cette promesse que portent tous les dispositifs qui, dans leur diversité, assurent la représentation de la vigne et du vin aujourd'hui en France. Faire du territoire, du paysage culturel, viticole, une promesse de bonheur et de sérénité retrouvée. Je vous remercie.